attaqué même hein, par les humanistes, par les athées. L'idée que Dieu aurait créé les choses comme la Bible le dit, c'est absurde. Nous avons prouvé depuis longtemps que l'évolution a tout créé, qu'un jour il y avait de la matière et elle a explosé, et puis tout s'est combiné pour faire la vie. Mais il y a toujours des scientifiques sérieux qui étudient cette question et qui disent, non, c'est pas possible. La vie n'a pas pu arriver par hasard. Il y a tellement de combinaisons et tellement d'éléments qui font que la vie n'aurait pas dû exister que quelqu'un a dû l'aider. Il a fallu une main, là, qui a placé la vie. Même hein, la Terre, si elle n'était pas protégée par la Lune, regardez l'état de la Lune. Vous avez vu tous les cratères sur la Lune, hein, même à l'œil nu, on peut les voir. Pourquoi il y a tous ces cratères? C'est que la Lune est notre protecteur, notre bouclier. Elle a reçu pas mal de météorites qui auraient pu tomber sur nous. Pourquoi avons-nous un champ magnétique extraordinaire autour de la Terre? Mais c'est pour garder l'atmosphère. S'il n'y avait pas ce champ magnétique, tout l'oxygène, l'azote, tout partirait, on ne pourrait plus respirer. Ce serait comme toutes les autres planètes qu'on a explorées ou vues. Il n'y en a aucune qui abrite la vie, et pour cause. Et les scientifiques cherchent, la NASA, ils envoient le plus loin possible, ils veulent trouver la vie ailleurs, à tout prix. Pourquoi la vie est sur Terre et pas ailleurs? C'est parce que Dieu est à l'origine de ces choses. Ce n'est pas un hasard. Et même si on croit, pour ceux qui croient au Big Bang, d'où vient la matière qui était là à l'origine? Qui a créé hein, cette boule au départ? Et pourquoi a-t-elle explosé? Pourquoi elle n'est pas restée comme ça? Et pourquoi? Si on est un vrai scientifique, on doit se dire, je ne sais rien. J'essaie d'apprendre, mais je ne sais rien. Malheureusement, aujourd'hui, comme il y a un antagonisme envers la foi, envers Dieu, c'est tentant de dire la Bible est fausse et moi je sais. Nous savons maintenant comment tout est arrivé. Voilà, il y a eu la boule, ça a explosé, mais ils n'en savent rien. Il y a beaucoup de questions qui se posent dans ce domaine. Mais non seulement Dieu est à l'origine de tout, mais il soutient toute chose. J'aimerais vous lire un verset dans Colossiens chapitre 1, verset 15. Il parle de Jésus-Christ. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le Fils, c'est le Fils éternel, c'est le Messie, c'est Christ avant même qu'il soit né, hein, le Fils. C'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et l'image du Dieu invisible. Dieu est esprit, on ne peut pas le voir. Mais Dieu se manifeste, se montre à nous physiquement, visiblement, par le Fils, par l'incarnation de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le visible du Dieu invisible. Et il est le premier-né de toute la création. Alors, ce verset est souvent utilisé par les témoins de Jéhovah pour dire que Jésus est la première des créatures. Mais le verbe là, le mot utilisé, pardon, c'est pas un verbe, le mot utilisé là ne veut pas dire premier-né dans le sens chronologique, mais c'est dans le sens élevé, dans le sens il est le chef de toute la création. Et d'ailleurs, la suite est évidente, hein. Car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, là il parle des anges, tout a été créé par lui et pour lui. On parle toujours du Fils de Jésus, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Quand on regarde et médite ces versets, ça va très très loin. C'est que tout a été créé par Christ, pour Christ. Toute chose subsiste en Christ. Tout vient de lui. Tout reste grâce à lui. Et on sait que l'univers tient en place avec des forces extraordinaires qu'on découvre. Et il suffirait que Dieu enlève ce soutien, hein, tout s'effondrerait sur lui-même. Dieu soutient toute chose par sa parole. Et il soutient aussi notre existence. Si Dieu n'avait pas voulu qu'on existe, on n'existerait pas. Si Dieu n'avait pas voulu que je sois encore vivant aujourd'hui, je ne serais pas vivant aujourd'hui. Ce sont des choses simples, mais c'est bien de se les rappeler. Je ne suis pas le centre de tout, je ne suis pas le maître de tout, je ne suis pas Dieu. Bien sûr, la médecine a fait des progrès extraordinaires. On espère même un jour prendre le contenu du cerveau et l'envoyer sur le cerveau d'un clone, comme ça on pourrait vivre éternellement. Il y a des gens qui croient ça sérieusement. Ils pensent qu'ils vont avoir la vie éternelle comme ça, en prenant les données du cerveau et en les mettant dans un clone. Sauf que l'âme n'est pas dans le cerveau. Le cerveau a plein de choses, il a de la mémoire, il a des connexions, mais l'âme, ce que je suis, est immatériel, ne peut pas se prendre et se mettre dans un clone. La vie éternelle, elle vient de Dieu. Sans lui, je n'existerai pas. Toutes les bénédictions que j'ai viennent de Dieu. Tout ce qui est bon sur la terre vient de Dieu. Ça, c'est dans l'épître de Jacques, un magnifique verset, Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu, qu'il appelle ici le Père des Lumières, nous bénit. Et Dieu ne change pas. Dieu n'est pas quelqu'un soupe au lait comme nous. Il bénit les bons et les méchants. Et tout ce qui est bon sur la terre, la joie, l'amour, la nature qui est belle, les couleurs, tout ça, c'est le plan de Dieu, ça vient de Dieu. Si c'est nous qui régnions, si nous étions aux commandes de l'univers et de la terre, qu'est-ce qui se passerait? Le frère tout à l'heure a prié pour contre la météo un petit peu. C'est-à-dire, si c'est nous qui gérions la météorologie, ben on dirait, moi je veux qu'il fasse beau quand je suis en vacances. Alors, il ferait beau là où vous êtes. Mais votre voisin dit, mais moi, je suis un agriculteur, moi, j'ai besoin d'arroser. Ah, alors oui, mais alors, toi, tu auras un peu de pluie, et moi, vous imaginez le chaos? Et en fait, l'homme a un certain règne sur la terre aujourd'hui, hein, avec ses entreprises, ses usines, etc., son agriculture. Et qu'est-ce qu'il fait de la terre? Ben, il est en train de la détruire à petit feu, hein. Il brûle les forêts, il fait de l'agriculture intensive avec des polluants, etc. L'homme, quand il commence à régner sur quelque chose, ça finit avec le chaos. C'est pour ça que la Bible dit, il faut qu'il y en ait un seul qui règne, c'est Dieu. J'aime ce verset du psaume 93, 1, qui dit ceci. Pardon. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Quand Dieu tient et règne sur le monde, les choses se passent bien parce que Dieu est tout-puissant, il est sage. Il sait tout ce qu'il faut. Il sait ce dont on a besoin. Mais quand c'est nous qui régnons, regardez l'Empire soviétique. Des dictateurs ont décidé qu'ils étaient Dieu, puisqu'il n'y avait pas de Dieu. Hein. C'était interdit de croire en Dieu sous l'Union soviétique. C'était un gouvernement athée officiel. Et ils ont dit, nous allons gérer tout. Alors on va tout mettre, tout privatiser. Et tous les citoyens seront des disciples de l'État, seront au service de l'État. Sur le papier, c'est merveilleux. Parce que imaginez un homme sage et bon qui fait ça. Et il distribue à chacun. Il dit, plus de riches, plus de pauvres. Vous allez voir, on va tout répartir par le nombre d'individus. On va tout partager. Ça va être merveilleux. Il est évident que le premier mois de la révolution bolchevique, c'était déjà des massacres, des jalousies, des querelles, des injustices. Il n'y a jamais eu une minute de paix avec le bolchevisme, avec le communisme, avec l'Union soviétique. Pourquoi? Parce que quand l'homme est aux commandes, c'est la catastrophe, hein. C'est pour ça que Dieu règne, et heureusement qu'il règne, mes amis. Et nous, en tant qu'hommes, on doit se rappeler qu'il y a un seul Créateur, un seul Seigneur, et être humble lorsque nous avons la responsabilité de la terre. C'est de lui que sont toutes choses. D'où est-ce que je viens? Je viens de Dieu. Je ne viens pas du singe, je ne viens pas de l'évolution, je ne viens pas du hasard. Je viens parce que Dieu a voulu que je sois là. Dieu me connaît, Dieu m'aime. Et il a choisi, il a voulu que j'existe, Combien c'est merveilleux de savoir que quelqu'un nous aime. Même si ton père et ta mère t'abandonnaient, dit la Bible, hein, moi je ne t'abandonnerai pas. C'est vrai qu'il y a des parents parfois qui manquent d'amour et qui abandonnent leurs enfants à la naissance ou plus tard. Mais Dieu, lui, il ne nous abandonnera jamais. Parce qu'il nous a créés. Il a voulu qu'on soit là. Tout est par lui. Le Seigneur Jésus a dit cette phrase aux disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas manger, boire, travailler sans lui ? Je pense que c'était surtout dans le domaine spirituel et dans le domaine du bien. Il y a une déclaration de la parole de Dieu en Romains chapitre 7 qui décrit notre condition humaine sans Dieu. Romains 7, verset 18. C'est écrit par l'apôtre Paul, inspiré par Dieu. Romains 7, 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Ces paroles sont très importantes. On a la volonté de faire le bien, on aimerait, on a des idéaux, on a des bons cœurs, on dit « Ah, j'aimerais !» Mais qu'est-ce qui ressort à chaque fois ? Le mal. On retombe dans le mal. Pourquoi ? Parce que le péché règne dans nos cœurs. Et le péché, nous l'avons eu à la naissance, mais nous l'avons cultivé. Nous avons vécu dedans, nagé dedans. Et tout ça ne peut s'arrêter que lorsqu'on se repent et qu'on se tourne vers Dieu, on dit « Seigneur, purifie-moi du péché, délivre-moi du péché. » Mais l'homme est incapable d'être bon. J'en parlais avec ce frère qui est dans la police. Il voit les choses, bien sûr, d'un œil particulier. Mais il dit, j'arrive à la conclusion que l'homme n'est pas bon. Et pourtant, il avait la bonne volonté. Il voulait croire à la bonté humaine. Mais il dit, je me rends compte, l'homme n'est pas bon. Au fond, plus vous creusez au fond, pire c'est. En surface, à la rigueur, on peut avoir une bonne éducation, être bien habillé, être propre sur soi. On dit, oh, ça, quelqu'un, il paye bien, il a l'air bien, un gendre idéal, comme on dit. Mais quand vous creusez à l'intérieur, c'est l'horreur. Hein, il y a des grands criminels comme ça, qui étaient des gens, monsieur tout le monde, qui étaient votre voisin, votre voisine. Puis un jour, il se met à tuer plein de gens et il dit, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? L'homme est mauvais. Et c'est pour ça que sans Dieu, on ne peut pas faire vraiment le bien. On ne peut pas aimer vraiment. On a de l'amour en nous, un petit peu d'amour, alors on aime ceux qui sont proches, on a quelques gouttes d'amour qu'on jette. Tiens, toi, à droite, à gauche. Mais on a vraiment une petite bouteille, vous savez, hein, une petite bouteille d'amour et elle est vite épuisée dans la journée parce que si on en donne trop le matin, on n'en a plus le soir. Hein. Il ne faut pas compter sur mon amour le soir. Mais qu'est-ce que Jésus a dit quand on l'accepte dans sa vie ? Il dit « Je vous donnerai des fleuves d'eau vive. » Des fleuves ! Ce n'est plus une petite bouteille. Sans Dieu, on n'est pas capable d'aimer. On n'est pas capable de résister aux tentations. Il y a des personnes qui ont beaucoup de volonté et qui disent « Moi, j'arrête de boire, j'arrête de fumer quand je veux. » Et il y en a qui sont capables d'arrêter certaines choses comme ça, mais j'en connais pas qui peut dire « Moi, j'arrête de pécher quand je veux. J'arrête d'être orgueilleux quand je veux. J'arrête d'être égoïste quand je veux. » Ça, vous ne pouvez pas. Vous pouvez avoir toute la volonté que vous voulez. On ne peut pas arrêter d'être égoïste, c'est notre nature. Il faut une nouvelle naissance, il faut que le Seigneur vienne. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout est par lui. Priez. Priez semble être la chose la plus simple au monde, hein, de tourner les yeux vers Dieu et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. » Mais même ça, on ne peut pas le faire sans Dieu. Parfois, on prie dans la chair. On prie de façon, en manquant de sagesse, en demandant nos besoins uniquement matérielles sans jamais remercier Dieu. C'est Jacques qui dit, hein, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Même dans la prière, on a besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Mais je pense aussi aux hommes et aux femmes et aux chrétiens qui sont dans les difficultés, qui ont besoin de la direction de Dieu ou qui sont dans une épreuve. Mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Mais j'ai Dieu. Tout est par lui. Je peux vaincre tout par lui. À Dieu, rien n'est impossible. Il n'y a rien d'insurmontable pour Dieu. Quand j'ai cette vision de Dieu que tout est de lui, par lui, pour lui, je vois la vie autrement. Je ne vois plus les épreuves comme quelque chose d'une montagne insurmontable. Non. Dieu, par Dieu, je traverserai cette vallée de la mort. Par Dieu, je monterai ce sommet infranchissable. Parce que Dieu est grand. J'ai un grand Dieu. Et je veux le suivre. J'ai confiance en lui. Je pense aussi au salut. Quelqu'un qui veut avoir la vie éternelle, quelqu'un qui veut être accepté au ciel après la mort, n'essayez pas par vos efforts. Vous n'y arriverez jamais. Vous pouvez être le plus religieux du monde. Luther, Martin Luther, était un des moines les plus fervents et les plus sérieux et les plus consacrés du monde. Il était dans son monastère et il dormait à côté de son lit, il dormait par terre. Il faisait la manche toute la journée pour avoir un petit peu d'argent et qu'il reversait à l'église. Il récitait plusieurs fois par jour, jusqu'à 50 fois, les Ave Maria, Notre Père, etc. Il se mortifiait, il se faisait mal. Il priait sans cesse et il est allé voir son supérieur, il a dit « Écoute, je n'arrive pas à avoir la paix dans mon âme. Je n'arrive pas à avoir le pardon de Dieu. Je ne sais pas comment faire. Je suis à bout. J'en peux plus. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. » Et son supérieur lui a dit, « Arrête de regarder à tes mérites et commence à regarder au mérite de Christ. » Et cette petite phrase a bouleversé sa foi. Il a compris qu'il regardait à lui-même. Il voulait se sauver lui-même. Il voulait devenir un saint. Aujourd'hui, l'Église de Rome canonise à tour de bras et elle met en valeur des gens en disant ce sont des saints, des super saints, ce sont des gens extraordinaires qui ont fait des miracles, etc. Et le pauvre croyant qui est là, qui dit « Mais moi, j'y arriverai jamais. Moi, j'y arriverai jamais. » Alors que la Bible dit que c'est Dieu qui nous rend saints. C'est Dieu qui nous sanctifie. C'est par lui qu'on devient saint. Et c'est par le sang précieux de Christ. Les mérites de Christ, c'est quoi? C'est que Christ est mort pour moi. Lui qui était parfait, qui a eu une vie absolument parfaite de sa naissance à sa mort. Lui, il est digne. Lui, il est absolument parfait. Et lui, il peut payer pour moi. Et il a payé ma dette sur cette croix. Et c'est comme ça que Martin Luther est devenu un enfant de Dieu, qu'il a été pardonné de tous ses péchés. Dès qu'il a compris ça, son supérieur lui a dit « Tu n'as plus rien à faire dans ce monastère. » Va-t'en, va enseigner. Et il est allé à l'université de Wittenberg, sa ville, pour enseigner la bonne nouvelle à ses étudiants. Et il a tellement enseigné que le pape a envoyé une bulle d'excommunication, c'est-à-dire un papier officiel du Vatican disant « Tu es rejeté de l'Église, tu n'es plus chrétien ». Et il a brûlé cette bulle devant ses étudiants, devant tout le monde. C'était comme s'il s'opposait à Dieu en faisant ça. Le pape, c'était Dieu sur terre. Et c'est comme ça que la réforme a brûlé dans tous les pays d'Europe. Parce que quelqu'un a compris le salut gratuit. Que c'est par lui seul qu'on est sauvé. C'est pas par mes efforts. Le verset de Romains dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Je sais d'où je viens, parce que Dieu a voulu que je sois là. Je sais où je suis, c'est par lui que je vis. Maintenant, je sais où je vais, c'est pour lui que je vis. Le but de ma vie doit être de glorifier Dieu. C'est quelque chose qu'on sait dans la théorie, mais qui est souvent peu pratiqué. Est-ce que je vis pour la gloire de Dieu? C'est tellement facile de chercher sa propre gloire, de chercher son intérêt. Surtout aujourd'hui, où la gloire des hommes est toujours mise en avant. C'est Pierre, dans sa première épître, au chapitre 1, verset 24, qui dit « Toute chair, tout homme, hein, est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Ou celui qui fait la volonté de Dieu, dans un autre passage, demeure éternellement. Qu'est-ce que c'est cette image de l'herbe et de la fleur de l'herbe ? Vous avez déjà parcouru les champs, les chemins, même si vous êtes parisien, vous les avez vus à la télévision peut-être, une fois, ou en photo. L'herbe, c'est une tige verte, hein, d'accord ? Et en été, certaines herbes, ou la plupart même, fleurissent. Vous avez des petites pâquerettes, des petites fleurs. Hein. C'est beau. Et ça dure combien ? Ça dure quelques jours. Hein. Et cette herbe, est-ce que vous y faites attention ? Est-ce que tous les jours vous dites « Ah, oh, cette herbe, elle est quand même extraordinaire, c'est fantastique. » Est-ce que vous avez encadré chez vous un herbe avec la fleur en disant c'est... Non, ça passe, ça brûle au feu, c'est, on le coupe. Pit. Ceux qui ont un jardin et qui tondent le gazon, ben, chaque fois... Vous coupez ces fleurs-là. Eh bien, il dit, nous, les hommes, on est comme cette herbe, ces fleurs de l'herbe. Hein. On est fauché, on meurt, on vit, on naît, on meurt, plof, on passe à autre chose, à quelqu'un d'autre. Où est la gloire de l'homme, là ? Il n'y a pas de gloire. Même si vous avez fait des accomplissements extraordinaires, même si on se souviendra de vous pendant des décennies, d'abord, on vous oubliera un jour ou l'autre. Et puis, vous ne vous souvenez de rien, vous êtes... dans la mort, dans le séjour des morts. Et là, il n'y a pas de gloire dans le séjour des morts. La vraie gloire, c'est la gloire qui revient à Dieu. Il n'y a qu'une seule gloire, c'est celle de Dieu. Parce qu'elle est sainte, elle est parfaite, elle n'est pas dans l'orgueil. Cette gloire était protégée hein, en Israël par les chérubins protecteurs. On l'appelait la Shekinah, cette gloire. Et dans le temple, elle était représentée hein, sur le coffre de l'Arche d'Alliance par ces deux chérubins. Et c'est là que Dieu résidait. C'est cette gloire que Moïse avait voulu voir et Dieu l'avait cachée tellement cette gloire est invisible, tellement elle est sainte et pure, cette lumière. On ne peut pas la supporter. Mais un jour, nous entrerons dans la gloire. Nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous entrerons dans ce lieu très saint, dans cette gloire de Dieu. Dans cette lumière extraordinaire. Et c'est ça la finalité de notre vie. Pourquoi est-ce que je suis sur terre ? La Bible dit nous sommes étrangers et voyageurs. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On s'installe. On creuse des fondations et on veut bien être dans la terre. Et la Bible dit tu es étranger et voyageur, tu ne sais même pas combien d'années tu vas vivre. Si tu vis 80 ans, super, tant mieux, mais si tu meurs à 23 ans ? Si tu meurs à 40 ans. Et la vie est courte. Et il faut qu'elle soit vécue pour les vraies choses, les choses essentielles, pour la gloire de Dieu. Dieu m'a placé là pour un but. Est-ce que j'accomplis le but de Dieu ? Savez-vous que le mot péché, en hébreu comme en grec, c'est un mot qui veut dire rater le but, rater la cible. Eh bien, péché, c'est rater le but que Dieu a fixé pour nous. C'est ça, péché, fondamentalement. Ce n'est pas juste commettre un crime ou un vol. Péché, c'est manquer la volonté de Dieu, le but de Dieu pour ma vie. Est-ce que vous vivez pour la gloire de Dieu ? Est-ce que Dieu est au centre ou est-ce que c'est vous le centre ? Est-ce que tout doit tourner autour de vous ? Ou est-ce qu'un jour, vous avez dit au Seigneur, c'est toi le Seigneur, c'est toi mon Dieu. Je veux tourner autour de toi, Seigneur. Je veux savoir quelle est ta volonté. Vous savez, ce qui fait qu'on tourne autour du soleil, c'est cette attraction, hein ? La force d'attraction. Est-ce que Dieu m'attire ? Ou est-ce que Dieu est un prétexte dans ma vie ? Est-ce que je cherche la gloire de Dieu, sa volonté ? Est-ce que je lui suis reconnaissant tous les jours ? Seigneur, c'est de toi que vient toute chose. La nourriture que je prends, l'eau que je prends, le vêtement que j'ai, le logement. La pluie qui tombe, le soleil qui brille. Ils me disent, oui, mais il y a des tempêtes, il y a des inondations. Mais ça fait partie du cycle de la vie, ça fait partie de la régulation de la terre. Ce n'est pas la méchanceté de Dieu, ce n'est pas injuste. Et lorsque les hommes construisent là où il ne faut pas, après, oui, effectivement, ils sont inondés. Mais il faut savoir construire avec sagesse, hein, sur le roc et pas sur le sable. Alors, en tant que chrétiens en particulier, nous devons remettre Dieu au centre. Nous devons avoir plus de reconnaissance, réaliser que tout est de lui, par lui et pour lui en finalité. La fin de ma vie, je comparaîtrai devant le Seigneur, devant le tribunal de Christ, comme ça s'appelle. Et il comptera tout ce que j'ai fait dans la volonté de Dieu en tant que chrétien. Et tout ce qui n'a pas été fait dans sa volonté va être brûlé. Terminé, on n'en parle plus, oublié. Toutes ces heures, toutes ces choses que j'ai faites sans Dieu vont être brûlées. Et si j'ai marché avec Dieu, j'aurai des couronnes. Si j'ai attendu le Seigneur, si j'ai été fidèle, Dieu nous récompensera, nous qui avons le Seigneur, par des couronnes. Et l'Apocalypse dit, que ferons-nous de ces couronnes? Nous les jetterons aux pieds du Seigneur. Tout est de lui, tout est par lui. Tout est pour lui. Même les récompenses, même les bénédictions qu'il nous donne, nous reconnaissons qu'elles viennent de lui. Et nous voulons l'aimer éternellement. Si vous relisez Apocalypse 22, vous verrez cet amour qu'il y a dans la Jérusalem céleste. Vous verrez que Christ, l'agneau, est au centre. Et il veut l'être dès aujourd'hui, au centre de notre vie, même au centre de notre Église. Donnons-lui toute la gloire. On va terminer par la prière et un cantique. Seigneur notre Dieu, nous devons reconnaître que souvent nous t'utilisons plutôt que nous t'adorons. Et tu n'es pas toujours au centre de nos pensées, de nos motivations. Tu n'es pas toujours au début et à la fin. Tu n'es pas l'alpha et l'oméga de notre vie. Seigneur, veuille nous pardonner. Lorsque nous avons repris le règne, lorsque nous nous prenons pour Dieu, Seigneur, donne-nous l'humilité des créatures de Dieu. Donne-nous l'humilité des enfants de Dieu. Merci de ce que tu nous as cherché. Tu nous as racheté un grand prix en donnant ta vie. Merci de ce que tu as voulu nous sauver malgré nos péchés et notre rébellion. Merci de cet amour incroyable qui t'a fait venir sur la terre pour nous délivrer du mal. Merci de ce plan qui va se terminer parfaitement dans la justice, dans une nouvelle terre où régnera la justice et la paix. Merci Seigneur de ce que tout te reviendra et nous voulons te donner gloire ce matin. Te donner toute la gloire. À Dieu soit la gloire dans tous les siècles maintenant, à jamais. Amen.